Europe du mur des podcasts des podcasts d'Ouest France. Cet épisode est enregistré en audio et en vidéo depuis la Voxbox du Parlement européen à Strasbourg. Donc, je suis Stéphane Vernet, le directeur de la rédaction de Ouest France à Paris, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose qu'on parle de campagne d'élections européennes ensemble pendant une dizaine de minutes. Donc, les prochaines élections européennes se tiendront le 9 juin 2024. Alors, dans un monde idéal, quels sont les grands thèmes, quels sont les grands enjeux dont nous aurions intérêt à parler collectivement en France à l'occasion de ces européennes, pour vous ?
Déjà, le grand thème, le grand sujet, ce doit être l'Europe, pas les questions de politique nationale. Pas un référendum sur Emmanuel Macron ou un contre-référendum sur Marine Le Pen, d'Europe. La question, c'est quelle Europe nous voulons ? Quelle Europe nous voulons ? Nous voulons une Europe qui revienne sur le Green Deal, qui le détricote sur le pacte vert européen, ou une Europe qui assume la transformation écologique et qui aille plus loin ? Est-ce que nous voulons une Europe de la défense, ou est-ce que nous voulons une Europe qui se recroqueville sur elle-même, sur ses États-nations ? La question de l'Europe de la défense, par exemple, ce ne sera pas du tout une question anodine. C'est la première fois que le continent européen va voter dans son ensemble alors qu'il est plongé dans la guerre. C'est la première fois que nous allons devoir décider si nous voulons être capables de nous défendre nous-mêmes ou non. Et sachant qu'il y a une élection américaine quelques mois après qui peut élire un président qui décide que l'architecture de sécurité européenne ne le concerne plus. Et donc, nous risquons de nous retrouver seuls. Et cette élection, ces mois de campagne, doivent poser une question fondamentale. Comment l'Europe peut-elle passer à l'âge adulte ? Sur les questions commerciales, sur les questions agricoles, sur les questions de souveraineté, de sécurité et de défense, sur la question de sa propre organisation politique. Ne nous laissons pas voler ces mois de débat. Enfin, l'Europe, c'est l'avenir de la France. C'est l'avenir des citoyens et des citoyennes de France. L'Europe, c'est la seule manière de reprendre le contrôle de notre destin dans ce monde. C'est la seule manière de peser sur les multinationales. C'est la seule manière d'imposer des règles à la globalisation. C'est la seule manière, en fait, eh bien, de redevenir ce que nous avons partiellement cessé d'être, c'est-à-dire des citoyens maîtres de leur avenir.
Alors ça, c'est dans un monde idéal, mais vous l'avez dit vous-même en préambule, le risque, c'est qu'on assiste à une campagne qui soit très franco-française, très centrée, qu'elle soit confisquée par des enjeux nationaux. Vous avez parlé de référendum anti-Macron. On voit aussi que la question de l'immigration risque d'être omniprésente. Vous avez une majorité présidentielle qui va probablement beaucoup insister sur les questions de souveraineté économique, mais c'est aussi une façon de s'intéresser à la seule dimension française. Comment on fait pour élargir le débat et pas se laisser piéger?
Moi, je suis quelqu'un de très borné, de très limité et qui a un respect sacro-saint de la démocratie. Et donc, quand il y a une élection, je réponds à la question posée par l'élection. Et donc, j'essaierai toujours, tout le temps, partout, de recentrer le débat sur l'Europe telle qu'on veut la construire, telle qu'on veut la changer aussi sur certaines politiques. Et sur les enjeux qui sont des enjeux. Vous savez, on a souvent l'impression que c'est des enjeux très lointains, l'Europe, que c'est des décisions prises par des technocrates qui n'ont aucun impact sur nos vies. Mais non. Je veux dire, si on veut des usines dans nos territoires, eh bien, ça passe par un changement des politiques commerciales et industrielles européennes. Si on veut simplement, mais qu'au coin de sa rue, le Starbucks qui vend du café et le PMU qui vend du café lui aussi, paye des impôts similaires et ne plus se retrouver dans cette situation où le Starbucks, parce qu'il est puissant et multinational, eh bien, paye trois fois moins d'impôts sur les sociétés que le PMU qui vend pourtant du café lui aussi. Si on veut mettre fin à ces injustices qui nous touchent directement, c'est à l'échelle européenne que ça se règle. Et donc, il y a une tradition en France contre laquelle je lutte, qui est que finalement, on considère tout le temps les élections européennes comme des élections intermédiaires, des sortes de test pré-présidentiel.
C'est un peu nos mid-term, en fait.
Voilà, mais c'est toujours la même histoire. Et c'est la même histoire aussi des partis politiques qui envoient des apparatchiks dans les institutions européennes.
Ce que ne font pas les autres États.
Mais bien sûr.
Il n'y a que la France.
Les Espagnols ne font pas ça. Les Néerlandais ne font pas ça. Les Allemands ne font pas ça. Ils considèrent les élections européennes comme un moment extrêmement important et ils veulent envoyer les gens les plus compétents pour pousser des dossiers au sein des institutions européennes parce qu'ils savent pertinemment que où est le pouvoir maintenant. Le pouvoir, il est largement ici, dans ce Parlement, ou à la Commission, dans les institutions européennes, dans les salles du Conseil européen où se mènent les négociations. Mais fondamentalement, si on veut peser, il faut prendre ces élections au sérieux désormais. Et c'est le message que je vais développer partout, bien sûr, que je vais développer un projet qui entrera en contradiction avec les autres projets qui seront proposés. Mais la première chose à faire, c'est pour ça que je voulais qu'on parte tôt avec Place Publique en campagne, la première chose à faire, c'est de convaincre les électrices et les électeurs en France que ces élections comptent, qu'il faut voter et qu'il faut parler du sujet des élections, c'est-à-dire l'Europe.
Alors, il y en a d'autres qui prennent ces élections très au sérieux, auxquelles on ne pense pas forcément directement. Vous allez me voir venir. Vous êtes président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous avez dit vous-même qu'on était dans une période de guerre sur le continent européen, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ingérence ou qu'on ne peut pas redouter qu'il y a un certain nombre de puissances étrangères extérieures à l'Europe qui cherchent à pousser au cours de ces élections des forces dans différents pays, qui soient des forces eurosceptiques et qui en fait contribuent à détricoter cette Europe ou à l'affaiblir à travers le processus démocratique?
Vous savez, dès le premier jour de mon mandat, c'était ici, dans ce Parlement à Strasbourg, j'ai demandé la création d'une commission spéciale sur les ingérences étrangères. Parce que je n'en pouvais plus, si vous voulez, de l'état de surprise réelle ou feinte de nos dirigeants face aux ingérences de Poutine à chaque fois qu'il y avait des élections sur le continent européen. Et pendant plus de 3 ans, nous avons méticuleusement documenté l'ensemble du système d'ingérence de Poutine, mais aussi de la Chine ou d'autres régimes autoritaires.
Il n'y a pas que les Russes.
Dans nos élections, dans notre débat public, dans notre vie quotidienne aussi, les hackings de nos hôpitaux, par exemple. Et la certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que l'ambition d'un régime comme celui de Poutine, c'est pas simplement de pousser ses intérêts, c'est de détricoter la construction européenne parce qu'il la voit comme une menace existentielle sur son propre régime. Et donc, ces élections, elles vont connaître des ingérences. C'est pas.
Vous en avez la certitude.
C'est une certitude, exactement. C'est la certitude qu'on a acquise. Elles vont connaître des élections qui seront des ingérences qui seront directes, le soutien assumé et répété, réitéré aux forces d'extrême droite qui ont pour objectif de briser ce projet européen. Et elles seront aussi indirectes, en faisant monter des thèmes, en faisant monter des angoisses, en faisant monter des peurs dans notre débat public qui favorisent directement. Les alliés de Vladimir Poutine. La question migratoire sera au cœur de ces entreprises de déstabilisation. Mais vous savez, on a analysé la manière dont, par exemple, la Biélorussie et la Russie, Loukachenko et Poutine, ont utilisé la question migratoire pour déstabiliser des démocraties comme la Lituanie, par exemple, en projetant des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains sur les frontières. Mais on risque de se retrouver dans cette situation-là à plusieurs reprises. Il faudra alors avoir les nerfs solides et il faudra aussi démonter l'architecture des ingérences russes et montrer à quel point ces pseudo-patriotes qui passent leur temps à décerner aux uns et aux autres des brevets de patriotisme se retrouvent en fait être les jouets consentants d'un régime étranger, d'une tyrannie étrangère dont les principes et les intérêts sont hostiles aux principes et aux intérêts de notre nation, de l'Europe, mais aussi de la France.
Quand on voit 6000 migrants qui débarquent en 48 heures à Lampedusa ensemble, de manière concertée et organisée, est-ce que vous y voyez la mainmise d'une puissance étrangère? C'est documenté? Vous avez des éléments là-dessus?
On a diligenté des enquêtes. Pour l'instant, on n'a pas les preuves. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une inquiétude immense pour une raison simple. Si vous regardez le corridor migratoire, tous ces coups d'État en Afrique qui sont liés à Wagner, eh bien, ça donne, si vous voulez, aux Russes et aux supplétifs de la Russie un contrôle sur ces vagues migratoires. Et donc là, on risque de se retrouver dans une situation d'otage réellement à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir une politique migratoire européenne. C'est fondamental de ne pas externaliser notre politique migratoire, parce que sinon, on se place dans les mains de tyrans. Et c'est aussi fondamental de devenir enfin sérieux sur la lutte contre ces ingérences et sur le fait simple qui n'est pas assez répété, y compris par les dirigeants soi-disant pro-européens de nos nations, ce fait simple, la guerre n'est pas limitée au territoire ukrainien. Le régime russe entend déstabiliser nos démocraties de l'intérieur. Il est prêt à utiliser tous les moyens pour cela, y compris la traite d'êtres humains.
Et vous pensez notamment donc à l'éviction de la France au Mali, au Burkina, au Niger, tout ce qui se passe au niveau du Sahel?
C'est cette multiplication des coups d'État qui ont une cible, en fait, notre pays, la présence de notre pays, l'influence de notre pays. Et on peut d'ailleurs quand même relever une chose assez étonnante, c'est que tous ces dirigeants français qui sont partis travailler pour des intérêts russes, ils l'ont fait, comme M. François Fillon par exemple, ancien Premier ministre de la France, ils l'ont fait à un moment où les milices Wagner ciblaient précisément la France comme ennemi principal et direct. Ils l'ont fait à un moment où les soldats français étaient mis en danger par les intérêts pour lesquels ils ont été travaillés. Et donc ça questionne en fait de manière extrêmement profonde la loyauté que nos dirigeants doivent à notre pays qui les a fait, qui les a promus, qui les a élevés au rang qui fut le leur. Et là on a, c'est notamment un des vertiges créés par les travaux de ma commission, un phénomène qui se répercute partout en Europe, qui se répète partout en Europe, qui est celui de la transformation de notre classe politique en supermarché. Quand vous êtes à Doha, au Qatar, ou à Moscou, en Russie, ou à Pékin, en Chine, et que vous regardez la classe politique européenne, vous voyez une sorte de supermarché dans lequel vous pouvez venir faire vos courses. Il est temps de mettre un terme à cela.
C'est ce que vous avez expliqué et dénoncé dans La Grande Confrontation, que vous avez publié chez Alary Éditions au printemps. Vous avez eu des retours depuis sur le livre et sur les contenus. Est-ce que ça vous a permis de changer, faire évoluer les regards et de changer des choses très concrètement par rapport
à
ces...
C'est honnêtement une de mes fiertés de ce mandat qui vient de s'écouler. Ce n'est pas juste le livre, c'est tout le travail parlementaire. C'est d'avoir placé la question de la sécurité de nos institutions au cœur du débat européen. Vous savez, l'Europe a été, s'est développée, toutes ces institutions se sont développées avec l'idée de la paix perpétuelle, avec l'idée de la fin de l'histoire. Et donc, en fait, on n'a pas su protéger nos institutions démocratiques. Et là, grâce à cette commission, enfin, on a placé, avant même l'invasion de l'Ukraine, la question de la sécurité et de la souveraineté de nos institutions démocratiques au cœur du débat public. Et il y a des avancées. Mais au-delà d'avancées techniques, si vous voulez, de changements législatifs qu'on est en train de produire, il y a la grande question d'une révolution mentale. C'est-à-dire que la seule manière qu'on aura de rendre nos démocraties plus sûres, eh bien, c'est d'investir la démocratie. C'est de considérer non plus que la démocratie est un acquis. Vous êtes démocrate parce que vous êtes né en démocratie et que tout ça vous semble éternel. En réalité, la démocratie commence à péricliter à partir du moment où on la considère comme acquise. Et donc, il faut qu'on arrête de devenir des démocrates par inertie, par apathie, par habitude ou par confort, et qu'on redevienne des démocrates par passion, par conviction. Et ces élections, ça doit être ce moment-là. Cette campagne, on doit sentir qu'en fait, les citoyennes et les citoyens français se passionnent pour la chose publique, pour la question de l'avenir de l'Europe, de leur continent, et en premier lieu, les jeunes. Parce qu'il n'y aura pas de démocratie stable et sécurisée tant que la jeunesse s'abstiendra à 80%. Donc moi, ce que je veux faire pendant cette campagne, c'est mettre la jeunesse au premier rang, c'est de montrer que dans les meetings, eh bien, il y a des milliers de jeunes qui viennent, qui sont enthousiastes et qui viennent non pas sur une rhétorique populiste, mais au contraire sur un mouvement d'espoir humaniste et de croyance, d'espérance dans l'Europe.
Écoutez, ce sera le mot de la fin et un des grands enjeux de cette campagne pour les européennes. Devenons démocrates par passion. Merci d'avoir suivi notre émission Europe du mur des podcasts de Ouest-France. Merci, Monsieur Glucksmann.
Merci à vous.